Cinq personnes interpellées après l'agression de Laura Vandégout et Virginie Ruffin à l'île des Pins. Elles ont été placées en garde à vue et devront répondre de violences en réunion et avec armes. Deux opérations de forces de l'ordre simultanées ce matin au Mont-d'Or et à la Conception. Une fois encore, les gendarmes ont essuyé des tirs nourris d'armes à feu. L'Assemblée de la province des Îles réunie à Lifou. À l'ordre du jour des élus, notamment le budget supplémentaire de la collectivité pour 2024 en très forte baisse. Et puis c'est une première depuis le 13 mai. Le centre du service national en Nouvelle-Calédonie a repris ce matin ses journées de défense et citoyenneté. Elle est obligatoire pour tous les jeunes de 16 à 25 ans. Enfin, dans ce journal également, comme tous les soirs, le programme des Jeux paralympiques de Paris 2024. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce journal avec à la une de l'actualité ce soir les suites de l'agression de deux élus de la province sud et du Congrès, Laura Vandégout et Virginie Ruffin. C'était samedi à l'île des Pins. Dans un communiqué publié en milieu d'après-midi, le procureur de la République annonce que cinq personnes ont été arrêtées et placées en garde à vue par la brigade de recherche de Nouméa. Ces cinq majeurs résidents de l'île des Pins seront poursuivis pour violence volontaire sur militaires de la gendarmerie nationale commises en réunion et avec armes, en l'occurrence la projection d'un cocktail Molotov en direction du véhicule de la gendarmerie, mais également pour violence volontaire en réunion commise sur deux élus et dégradation de biens. Ces faits de violence volontaire, écrit Yves Dupas, qui ont visé des personnes titulaires d'un mandat électif public et des gendarmes, justifient un traitement judiciaire rapide et empreint de fermeté. Une agression de deux élus qui a conduit la province sud à décider de la fermeture des services provinciaux sur l'île des Pins du 5 au 9 septembre. Et le deuxième vice-président de la collectivité, Gilles Brial, s'en explique, Jean-François Bonin.
Deux élus en déplacement sur le terrain à la rencontre des populations et des entreprises touristiques dont l'activité est actuellement durement impactée et qui ont donc dû repartir après avoir été agressés par des jeunes cagoulés qui exigeaient d'elles qu'elles ne mettent plus les pieds à l'île des Pins. Le message, explique le deuxième vice-président de la province sud, Gilles Brial, c'est que la collectivité n'est plus la bienvenue sur l'île des Pins. Elle porte pourtant de nombreux services à la population cougnée, précise encore Gilles Brial, qui souhaite qu'un point soit fait à la fois avec le personnel de la province sud et les autorités coutumières.
À l'île des Pins, la province, c'est la santé à travers le CNS, c'est la protection des personnes avec les pompiers, c'est les liaisons aériennes avec les contrôleurs aériens, et les liaisons maritimes puisqu'on finance le petit show, et c'est les aides aux personnes et aux entreprises avec nos médiateurs. Donc c'est une vingtaine de personnes qui sont au service de la population. Donc nous, notre objectif numéro un, c'est de faire le point avec notre personnel provincial qui au quotidien porte la politique au service de la population à l'île des Pins. Et puis deuxièmement, c'est adresser également un message aux Cougnais et leur dire qu'on ne peut pas accepter que la collectivité soit prise à partie. Il faut qu'ils fassent la différence entre la politique et une institution qui est au service de la population.
L'ensemble des services provinciaux sera donc fermé sur l'île des Pins du jeudi 5 septembre au lundi 9 septembre inclus. Et si la mission de la province sud est bien d'œuvrer en faveur de la population, ce service devient de plus en plus compliqué avec le départ de personnels médicaux victimes de pressions racistes.
Aujourd'hui, au CMS, pour qu'il fonctionne normalement, il nous faut 4 infirmiers et 3 médecins. Et on a malheureusement 2 médecins et 2 infirmiers qui ont quitté l'île des Pins parce qu'ils étaient victimes d'insultes racistes, de menaces racistes, eux et leurs familles, chose qui est inadmissible. Et cette pression d'une partie de la population fait que la province sud, elle ne peut plus porter sa politique de service aux personnes de manière normale et en toute sécurité.
La province sud avait déjà réaffirmé dans un communiqué sa détermination à ne pas se laisser intimider par des actes antidémocratiques et appelle les autorités coutumières à réagir afin que ces violences cessent immédiatement.
Et de son côté, Calédonie Ensemble estime qu'il est parfaitement intolérable que deux élus de la province sud aient été pris à partie lors d'un déplacement à l'île des Pins dans le cadre de l'exercice de leur mandat. Dans un communiqué, Calédonie Ensemble écrit que s'attaquer physiquement aux élus, quelle que soit la formation politique à laquelle ils appartiennent, c'est s'en prendre à la République elle-même. Pour autant, le parti de Philippe Gomez qualifie de disproportionné la décision de la présidente de la province sud de fermer pendant 5 jours l'ensemble des services provinciaux en activité sur l'île des Pins.
Vous écoutez Info Soir, il est 17h50.
À la suite de l'actualité avec cette double opération des forces de l'ordre au Mont-d'Or ce matin. D'abord à la Conception, où les gendarmes ont procédé à une interpellation dans la tribu. Il pourrait s'agir d'un individu impliqué dans les heurts survenues dimanche. Deux gendarmes avaient été blessés lors d'une opération de déblayage de la route après avoir essuyé des caillassages et des tirs. D'autre part, à Saint-Louis, Plusieurs Centaure et VBRG ont mené une patrouille entre les deux verrous de la RP1 pour vérifier si l'axe n'était pas encombré. Les gendarmes ont essuyé des tirs nourris d'armes à feu lors de cette opération. Le député Nicolas Metzdorf écrit à ses collègues parlementaires indépendantistes dans un courrier adressé au député Emmanuel Tchibaou et au sénateur Robert Rowy. Il les interpelle sur leur participation au récent congrès extraordinaire du FLNKS qui s'est tenu en l'absence du PALIKA et de l'UPM. Un congrès dont l'événement le plus marquant a été la nomination de Christian Théin à la présidence du FLNKS, Jean-François.
Nicolas Metzdorf rappelle à Emmanuel Tchibaou et à Robert Rowy que dans quelques semaines, le président de la République devrait réunir les acteurs calédoniens pour discuter de la reconstruction et de l'avenir de la Nouvelle-Calédonie et que c'est dans cette dynamique de reconstruction qu'il a accepté de travailler en collaboration avec eux auprès de l'ensemble des acteurs publics et privés pour porter d'une même voix les revendications et attentes des Calédoniens auprès du Parlement national. « Vous comprendrez, écrit le député de la première circonscription, que votre présence à ce congrès du FLNKS, qui n'en était pas un, et qui s'est achevé par l'adoption d'une motion qui ruine tous nos espoirs de dialogue, m'interroge. La question que je me permets de vous poser est donc simple. Reconnaissez-vous M. Théin comme le président du FLNKS ? Si la réponse est positive, ajoute Nicolas Metzdorf, il me semblerait alors incongru de continuer à parler ensemble de reconstruction. Si elle était négative, alors ce courrier serait bien inutile. » Fin de citation.
Le Sénat coutumier exprime de son côté sa profonde tristesse et son indignation après l'incendie qui a ravagé la grande case de la chefferie du Wetch. Le nouveau président, Elo Gowé, souligne, et je cite, que la destruction de ce symbole est une perte immense pour tous, un affront à notre héritage culturel et à notre histoire commune. Il apporte son soutien à la grande chefferie Siazé, aux clans, aux familles et aux membres des tribus touchées par cet événement tragique. Dans un autre communiqué, le président du Sénat coutumier rend hommage cette fois au grand chef de Belep Amabili Waoulo, décédé vendredi dernier. Son engagement pour la préservation de notre culture et de notre patrimoine a laissé une empreinte indélébile dans le cœur de ceux qui ont eu le privilège de le connaître, écrit Elo Gowé. Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie rend également hommage au grand chef de Belep, reconnu pour sa générosité, sa bienveillance et son humilité exemplaire, écrit l'exécutif.
Radio Rythme Bleu, opinion.
C'est l'heure d'opinion, votre rendez-vous SMS sur Radio Rythme Bleu avec d'abord la réponse à notre question d'hier. 84% des auditeurs d'RRB qui se sont exprimés par SMS pensent que le PALIKA et l'UPM doivent quitter le FLNKS. Ils sont 16% à penser à l'inverse qu'ils doivent essayer d'en reprendre le contrôle. Et voici notre question du jour. Selon vous, quel est l'objectif premier de la taxe sur le sucre qui vient d'entrer en vigueur ? Si vous pensez qu'elle a d'abord pour objectif la santé publique, vous tapez 1. Si vous pensez que son premier objectif est d'augmenter les recettes fiscales, vous tapez 2. Et vous envoyez votre réponse au 31-46. Un rendez-vous sur notre antenne. Nous ferons le point sur les aides de l'État aux entreprises et au monde économique demain matin à 7h30. C'est le secrétaire général du Haut-Commissariat Stanislas Alfonsi qui viendra nous en parler. Il sera donc notre invité du matin. Interview à suivre à partir de 7h30. L'Assemblée de la province des Îles s'est réunie aujourd'hui à Lifou avec à l'ordre du jour des élus notamment le budget supplémentaire de la collectivité pour 2024. Il se monte à 1,7 milliard de francs en investissement et 900 millions en fonctionnement en très nette baisse par rapport à 2023. Isabelle Berrounet est élue UC FLNKS à la province des Îles.
Un budget supplémentaire en difficulté par rapport à la situation financière fragile de la province des Îles, mais c'est le cas de toutes les collectivités. On a voté quand même des efforts sur la maîtrise des dépenses, par exemple sur les baisses des charges du personnel, la baisse des indemnités des élus de 50 000 francs par élu, aussi les réductions des aides financières de la collectivité. Donc des efforts, mais aussi des aides qu'on a pu accorder aux entreprises qui sont déjà en difficulté économiquement à partir des événements du 13 mai. Donc un dispositif d'aide d'urgence qui est complémentaire au dispositif du gouvernement et au dispositif de l'État en ce qui concerne le chômage partiel.
Le PALIKA s'est abstenu sur ce budget supplémentaire 2024, mais il a également été question à l'IFU aujourd'hui de relance économique avec un forum qui va se dérouler pendant 2 jours à partir de demain.
Le forum de relance économique en province des Îles, c'est demain et après-demain. Donc on compte à tous nos partenaires, tous nos acteurs économiques et forces vives de l'île de pouvoir échanger et venir partager des idées innovatrices, mais dans le but, bien sûr, de développer des stratégies pour une relance économique durable. Comment on va décider des orientations politiques dans la restructuration, justement, des secteurs clés, comme le tourisme, l'agriculture, la pêche, mais aussi la recherche d'autres financements, d'autres dispositifs de financement par rapport à ces secteurs prioritaires.
À la province des îles qui souhaite également transférer à la Nouvelle-Calédonie la charge du minimum vieillesse et qui va abroger le bénéfice de l'aide au transport pour les habitants des îles qui bénéficient déjà de la continuité territoriale. 17h56, dans un instant, la suite de l'actualité.
Préservez votre habitation contre les termites avec Formula 4D.
Traitement de charpente, pièges préventifs et barrières chimiques.
Déductible de vos impôts. Infos sur formula4d.com.
À vos côtés depuis 40 ans. RRB.
Nos boîtes mail Lagoon étant inaccessibles pour le moment, nous vous informons que vous pouvez envoyer vos mails à l'adresse suivante rrb@rrb.nc. Informations, publicité, programmation, avis de décès, avis et communiqués, une seule adresse, rrb@rrb.nc. Info soir, Gilles Ménage.
La reprise du SMTU, ce ne sera pas pour tout de suite. Une réunion avait lieu cet après-midi entre la direction et les différentes délégataires. Une suspension a été actée jusqu'au 13 septembre pour le moment. Le SMTU travaille actuellement à une éventuelle reprise, mais au vu de la situation financière du syndicat et du contexte sécuritaire, cela pourrait prendre encore un peu de temps. Et puis Air New Zealand prolonge la suspension de ses vols jusqu'au 29 mars 2025. Le 10 juin dernier, la compagnie Kiwi avait suspendu une première fois ses liaisons avec la Nouvelle-Calédonie jusqu'au 28 septembre 2024, puis jusqu'au mois de novembre, puis au mois de décembre. Il faudra désormais attendre la fin du premier trimestre 2025 pour voler à nouveau sur Air New Zealand. Les dossiers de réservation sont actuellement en cours de traitement. Les passagers sont avisés par mail et SMS par leurs agences de voyage. Et puis en grande difficulté financière, l'Observatoire de l'environnement en Nouvelle-Calédonie se met en sommeil, Léana Colombo.
Et oui, alors que le coût annuel de fonctionnement de l'association approche des 120 millions de francs, l'ensemble des subventions a été suspendu. L'œil a donc placé son équipe de 10 personnes en chômage partiel, a réduit ses services au minimum et les projets en cours sont arrêtés pour une durée indéterminée. Les précisions de Fabien Albouy et le directeur de l'œil.
L'objectif en fait de cette mise en sommeil, c'est de réduire nos coûts et de nous permettre de passer la crise de manière à pouvoir assurer une surveillance de l'état de l'environnement et de continuer à être une source d'information sur l'état de l'environnement pour les populations, les gestionnaires, les décideurs, en toute neutralité et en toute transparence. On assure des services qui ne sont pas assurés par les collectivités ou d'autres structures, notamment je pense à la détection des incendies, à la mesure de l'impact environnemental des feux, etc. Pareil, en fait, les diagnostics environnementaux qu'on porte sur le Grand Sud ou sur Thio, notamment par rapport aux impacts miniers, en fait, on est les seuls à les produire. Et puis surtout, l'œil a accumulé 15 années de données de suivi environnemental, a mis en place des outils pour assurer la mémoire en fait de l'environnement calédonien. Et tous ces outils, si l'œil disparaît, ils ne seront pas forcément repris et on risque d'avoir une grosse perte de connaissances. Et voilà, oui.
L'Observatoire de l'environnement existe depuis maintenant 15 ans sur le territoire et en attendant de trouver des solutions pérennes, l'œil met en place une cagnotte en ligne. Durant les 3 prochains mois, seules les détections d'incendies seront mises à jour automatiquement sur le site internet.
C'est une première depuis le 13 mai dernier. Les journées défense et citoyenneté ont repris aujourd'hui, la première ce matin, l'autre cet après-midi à l'auditorium de la province sud, mis à disposition puisque les sites militaires sont inaccessibles depuis 3 mois pour des raisons de sécurité évidentes. La JDC est obligatoire, vous le savez, pour tous les jeunes âgés de 16 à 25 ans. Au total, 51 jeunes ont répondu à leur convocation aujourd'hui.
Plusieurs intervenants nous ont parlé des métiers des corps d'armée et de tout ce qu'on pouvait faire. Si on n'avait pas d'opportunité d'avoir un diplôme et tout, on peut toujours trouver des alternatives dans les corps d'armée.
Ils donnent plusieurs aspects de l'armée, de terre, de l'air, qu'on ne connaît pas forcément parce que nous, on est plus sur, ils vont faire la guerre, des trucs comme ça, mais on a les différentes façons dont ils font, les différents moyens qu'ils ont. Mais je trouve ça plutôt intéressant.
Ça nous a donné envie d'être réservistes parce qu'il y a des journées, c'est pas tout au long de l'année, du coup, c'est sur quelques samedis sur 4 qu'on nous a expliqué et qui sont aussi rémunérés, ce qui donne aussi du coup l'encouragement aux jeunes personnes.
Ça m'a ouvert l'esprit sur le fait que je peux avoir ma vie personnelle et mon travail tout en pouvant servir notre nation.
Voilà, et pour cette reprise, c'est donc une JDC adaptée qui est présentée aux jeunes. Le format a changé, notamment il n'est plus d'une journée entière de 8 heures, explique Jackie Lejeune, le chef du centre du service national de la jeunesse en Nouvelle-Calédonie.
C'est au niveau national que tout a changé, c'est-à-dire que ce n'est pas que en Calédonie. Suite aux Jeux Olympiques, il y a beaucoup de sites qui ont été réquisitionnés de juin à septembre et donc on ne pouvait pas faire de JDC en métropole. Donc tout le monde reprend actuellement pour une année à 2h45 afin de rattraper tous les jeunes qui n'ont pas pu être présents à leur JDC. Le contenu, on a gardé tout ce qui est test de français pour pouvoir transmettre à nos partenaires, le vice-rectorat, l'ADEC, etc., les résultats des jeunes en difficulté de lecture et pour aider ceux qui ne vont plus à l'école. On a gardé également les 3 modules de présentation par les militaires des 3 éléments principaux des armées. On est parti pour 4 JDC par semaine. En fin d'année, on devrait avoir attrapé surtout les gens de Nouméa, Grand Nouméa, qui représentent 80% des jeunes qui viennent en JDC.
Et pour les jeunes qui éprouveraient des difficultés pour se déplacer vers Nouméa lorsqu'ils ont reçu leur convocation, le Centre National propose d'appeler l'accueil au 29 28 78, le 29 28 78, du lundi au vendredi de 7h30 à midi. Le Salon des études supérieures n'a pas pu se tenir fin juillet, comme chaque année depuis 25 ans maintenant à Nouville, en raison des événements bien sûr. Mais l'UNC et ses partenaires se sont mobilisés pour proposer plusieurs opérations d'information de grande envergure dont nous avons parlé ce midi dans notre magazine citoyen, notamment avec le directeur de la communication de l'UNC, Sylvian Raffarty, qui est revenu sur ce qui sera finalement une journée porte ouverte.
On a choisi cette formule qui va se dérouler d'abord le 7 septembre sur le campus de Nouville, avec aussi bien sûr les collègues du vice-rectorat qui seront avec nous, donc pour présenter l'offre de formation de l'université et faire découvrir l'outil universitaire. Et également, nous, on aura aussi nos collègues du campus de Baco qui animeront un stand d'information sur le centre commercial Théari, toujours le 7 septembre. Et à côté de ça, la formule salon, on va dire, est remplacée par 7 journées portes ouvertes et aussi des présentations dans les lycées. L'UNC viendra dans les lycées qui ont organisé, donc avec le vice-rectorat, des journées spécifiques sur l'orientation. Et il y a aussi une partie internet qui va être un petit peu plus poussée pour pouvoir présenter toute l'offre d'enseignement supérieur qui est disponible en Nouvelle-Calédonie.
C'est une semaine importante d'ailleurs pour les futurs étudiants, puisque la plateforme Parcoursup est ouverte depuis hier et les institutions sont là pour les accompagner, souligne Valérie Poirmeur et les délégués académiques chargés de la formation, de l'orientation et de la persévérance scolaire au vice-rectorat.
On va les accompagner, rien ne peut se faire sans de l'information et donc on va s'atteler puisque le temps de Parcoursup s'est ouvert hier, hein, le 3 septembre l'application a été ouverte pour que les jeunes puissent constituer leur dossier. Donc on va les accompagner pendant tout ce temps-là, les rassurer dans un temps incertain, effectivement au terme de l'actualité, et pourtant il y aura bien un demain à construire ensemble, donc on va les mettre en route. On est vraiment sur le même modèle que Parcoursup France, mais avec l'offre de formation de la Nouvelle Calédonie, c'est-à-dire plus de 90 formations qui sont à la disposition des jeunes qui veulent se projeter en restant dans leur pays.
La plateforme Parcoursup qui sera refermée le 23 octobre prochain. Notez que ce magazine citoyen est à retrouver en intégralité en réécoute audio sur notre site internet.
RRB 18h04.
Le marché de l'occasion, lui, est en train d'exploser en Nouvelle-Calédonie. Les conséquences de la crise économique liée aux émeutes poussent en effet de nombreux Calédoniens à se tourner vers la seconde main pour faire leurs achats, Sarah Mégerie.
Ce matin, à la ressourcerie à Nouméa, de nombreux clients sont venus profiter de nombreux articles à tout petit prix. L'association a enregistré une augmentation de 20% de son chiffre d'affaires depuis le 13 mai. Pour les Calédoniens, le marché de la seconde main est une aubaine.
C'est vraiment pas cher, 100 francs en général, les petits hauts, ou les robes, les pantalons, vraiment on trouve de tout, hein. Pas seulement des vêtements mais aussi tout ce qui est ustensiles de cuisine, informatique, livres.
Un vrai bonheur, vraiment, c'est bien utile en plus en cette période.
Pour mes enfants, puisque la vie est chère, donc pour leur donner des jouets, des vêtements.
M'aérer la tête et puis voilà, j'ai trouvé mon petit bonheur, un livre, où, voilà, il ne demande pas grand chose.
En ligne, les annonces se multiplient. Annonce.nc compte 20% de fréquentation en plus sur son site depuis le début des émeutes, explique David Pedro, gérant de la société Wamland.
On a effectivement beaucoup de choses qui se vendent dans un sens ou dans l'autre. Hein. Il y a beaucoup de gens qui recherchent aussi. Hein. Il n'y a pas que des gens qui vendent, loin de là. On a une augmentation, on va dire, de l'ordre de 20% un peu du trafic par rapport à d'habitude, autant en vente qu'en recherche. Alors aujourd'hui, sur les sites généralistes, on a effectivement deux parties. On a les gens qui vont rechercher des bonnes affaires, bien entendu, hein. Mais plus généralement, ça va être un peu dans la construction, ça va être les véhicules sont pas mal boostés aussi. Et puis tout le côté un peu solidaire, où là, on va avoir des gens qui donnent des affaires, des gens qui cherchent des affaires. Je parle de vêtements, hein, notamment. Après, l'ensemble des sites, de toute façon, est boosté par cette crise, hein, fatalement. Hein. Il y a des objets qui étaient à vendre avant la crise et qui ne sont plus autorisés après la crise, c'est notamment les armes. Les armes, historiquement, il y a toujours eu des armes à vendre sur annonce.nc, dans la rubrique armes et airsoft. Aujourd'hui, seuls les airsoft sont autorisés. Les armes ont été interdites à la demande du Haut-Sarriat.
Du côté des brocanteurs, les particuliers sont très nombreux à vouloir vendre des meubles ou objets de décoration. Beaucoup de magasins spécialisés dans la brocante sont saturés, explique Alfred Ingros, gérant de la boutique Brocantissime à Nouméa.
Comme il y a une dizaine d'années que je suis là, j'avais déjà une certaine clientèle. Et parmi, il y a beaucoup qui ont pris la décision de quitter le territoire. Donc ce sont des gens qui viennent et puis bon, ils ne veulent pas trop perdre leur temps à faire des vide-greniers, des choses comme ça. Ils proposent de vendre tout l'intérieur de la maison, donc ça m'est déjà arrivé. C'est une pratique assez courante. Mais j'explique que moi, j'ai déjà pas le volume de stockage. Et en plus, il n'y a aucun intérêt pour moi, vu qu'on a aucune, on peut pas se projeter ni rien, ni dans 6 mois, ni dans peu importe. Donc, bien souvent, je suis obligé de leur dire que je suis désolé, je peux rien pour eux, quoi. Donc, je sais pas comment ils font. Je pense qu'ils donnent ou peu importe. Mais enfin, voilà, c'est un peu compliqué pour tout le monde.
Notez qu'en cette période de solde, les marchés de la seconde main enregistrent une fréquentation très importante malgré la concurrence.
À 18h07, dans un instant, l'actualité sportive.
Savez-vous qu'un lave-vaisselle utilise de l'énergie surtout pour le chauffage de l'eau et peu pour le moteur de la pompe de vidange ? Les programmes à faible température comme Eco permettent de diminuer en moyenne de 5% la consommation d'électricité.
Retrouvez toutes les astuces Eco-Conso sur le site EEC. Sur RRB, il n'y a pas de jour sans EEC.
Construisons notre pays, économisons l'énergie.
Spécial info-jeu SMS sur RRB, le jeu du million 40-20 change de formule. Maintenant, c'est tous les 1500 SMS pile sur le compteur pour gagner 100 000 francs de bons d'achat à dépenser où vous voulez, comme vous voulez. Il n'y a pas de liste préétablie, les gagnants décident comment se faire plaisir. Alors pour jouer, envoyez RRB par SMS au 40-20. Et si vous n'êtes pas pile sur le compteur, votre SMS est enregistré automatiquement pour le jeu du million. Oui, 1 million de bons d'achat sont à gagner par tirage au sort parmi tous les SMS reçus. Alors tentez votre chance en envoyant RRB au 40-20. 371 francs par SMS, règlement disponible à l'accueil de la radio. N'oubliez pas, RRB au 40-20. Bonne chance.
RRB, première radio d'information.
La suite du journal et c'est du sport, Gilles Ménage.
Oui, et le sport ce soir, c'est la page spéciale consacrée aux Jeux paralympiques de Paris.
Les pages spéciales des Jeux paralympiques sur RRB avec la Banque de Nouvelle-Calédonie, partenaire premium de Paris 2024.
Allez, le programme des Jeux paralympiques, on voit ça avec vous, Léana Colombo. Aucun Calédonien n'est en compétition ce soir, mais de nombreuses épreuves sont programmées. Certaines ont même d'ailleurs déjà débuté.
Et oui, depuis 18h se déroule le 16e de finale de tir à l'arc d'Aziza Benami et l'épreuve de para-équitation de Chiara Zenati. Suivent dans la foulée les qualifications en tir sportif à 50 mètres de Didier Richard et Jean-Louis Michaud.
À 18h30, place à la paranatation où les nageurs tricolores se succéderont pour tenter d'obtenir leur ticket pour les finales de demain matin.
Hugo Didier sera en lice sur le 100 mètres d'eau, Dimitri Grandjus et David Smetanine sur le 200 mètres nage libre, Laurent Chardard sur le 50 mètres papillon, Solène Sache sur le 50 mètres d'eau et Alex Portal sur le 200 mètres 4 nages.
Après le succès d'Aurélie Aubert hier qui a décroché la médaille d'or en boccia, place au match par équipe.
Et Sonia Ekel et Jules Ménard ouvriront le bal à 20h50 en défiant l'Australie en double mixte dans la catégorie BC3.
À 22h, il y aura également du tennis de table avec les quarts de finale mais aussi de l'escrime fauteuil. Clémence Delavoye-Pierre entrera en lice dans la catégorie A. Et puis en basket fauteuil, la France jouera contre les États-Unis pour une place en demi-finale.
Le match débutera demain à 6h30. Le nom du premier demi-finaliste sera connu ce soir. L'Espagne affronte en effet l'Allemagne à 22h45.
Demain, il y aura de l'athlétisme au Stade de France. De nombreux tricolores seront en lice pour viser une médaille. À 4h du matin, se déroulera notamment la finale du saut en longueur T37 pour les hommes.
Et sera en compétition le français Valentin Bertrand. Hier, la française Manon Genest avait décroché la médaille de bronze dans cette même discipline, mais chez les femmes. Les Français seront également en compétition pour les finales du lancer de poids F20 et le 400 mètres T20 chez les hommes, ainsi que le 400 mètres T37 chez les femmes. À noter également l'entrée en lice ce soir à 20h04 exactement de la porte-drapeau française Nanténin Keïta sur le 100 mètres T13.
Enfin, l'équipe de France féminine affrontera la Chine. Ce sera en volleyball assis à 5h, quand les Bleus du Cécifoot seront opposés à la Turquie. Ce sera à 5h30. On termine cette page spéciale paralympique.
C'était les pages spéciales des Jeux paralympiques sur RRB avec la Banque de Nouvelle-Calédonie, partenaire premium de Paris 2024.
Et après ce clin d'œil à notre partenaire, on passe à la météo.
La météo avec la 7. 6 magasins sur l'ensemble du territoire pour vous accompagner dans tous vos projets. La 7, construire, rénover, aménager.
Buvez un petit peu de thé, mon cher Nicolas, on vous écoute.
Alors, cette nuit, les nuages remonteront sur la façade ouest où ils déposeront quelques ondées. Ils seront moins nombreux sur les autres régions. Le vent de sud-est soufflera entre 10 et 15 nœuds sur l'ouest et le nord, voire autour de 15 nœuds sur le nord-ouest. Ailleurs, il se maintiendra entre 5 et 10 nœuds de sud à sud-est. Les températures de la nuit diminueront légèrement, allant de 16 à 20 degrés en général, et de 11 à 15 degrés sur l'ouest, Lifou et Marais. Demain matin, une bande de nuageuse faiblement pluvieuse abordera la façade ouest de la Grande Terre. Ailleurs, le beau temps se maintiendra. L'alizé de sud à sud-est soufflera entre 10 et 15 nœuds. Localement, autour de 10 nœuds sur le sud, il se renforcera sur le nord-ouest entre 15 et 20 nœuds en fin de matinée, Gilles.
Merci Nicolas pour toutes ces précisions.